Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Il est 5h sur Radio France Internationale, 7h à Raqqa et à Mamoudzou. Le journal Clotilde Dumay, bonjour.
Bonjour Vincent, bonjour à tous. La guerre n'est pas terminée, prévient l'envoyé spécial des Nations Unies en Syrie. Référence aux affrontements qui ont éclaté en parallèle de l'offensive rebelle jusqu'à Damas entre les groupes pro-turcs et les forces pro-kurdes depuis plus d'une semaine dans le nord du pays. On va y revenir dans un instant. Mayotte dans l'attente de livraison de nourriture alors que les Mahorais craignent les pénuries après le passage du cyclone Chido. Un couvre-feu était instauré pour la nuit. Le président français Emmanuel Macron est attendu sur place demain. Et puis dans ce journal également le témoignage d'un député du parti au pouvoir en Géorgie alors que les manifestants pro-européens continuent leur mobilisation contre le gouvernement et contre le nouveau président qui doit entrer en fonction en fin de semaine prochaine. Il assure, ce député, que les institutions de l'État feront tout ce qui est nécessaire pour assurer une transition pacifique du pouvoir. La prochaine étape en Syrie sera de dissoudre les groupes armés pour les intégrer à la future institution militaire. C'est ce qu'assure auprès de l'agence France-Presse le chef militaire du Hayat Tahrir al-Sham, le groupe islamiste qui a emmené les rebelles jusqu'à Damas pour chasser Bachar al-Assad. Le HTS sera, selon lui, le premier à prendre cette initiative. Le nouveau pouvoir qui entend aussi étendre son autorité sur les zones kurdes du nord-est de la Syrie où les rebelles pro-turcs ont également parallèlement mener une offensive contre les forces pro-kurdes dans plusieurs régions, notamment Manbij. Le conflit n'est pas encore terminé, prévient l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie. Plus de 100 000 personnes se sont récemment déplacées vers l'administration autonome du nord-est syrien et près de 10 000 d'entre elles sont actuellement à Raqqa dans des conditions précaires alors que l'hiver s'est installé et que plane la menace d'une nouvelle offensive. Reportage de Marie-Charlotte Roupy.
Le stade dans lequel on habite, c'est le stade noir.
Le stade que l'État islamique utilisait comme centre de torture s'est changé en lieu d'accueil pour les réfugiés venus de Shahbar, au nord d'Alep. Cet homme, qui ne donnera pas son nom par peur de représailles contre ses proches restés en arrière, a fait partie des premiers arrivés début décembre.
Il y avait des bombardements, des morts, des pillages, des tirs. On s'est échappé et on a tout laissé derrière nous, notre maison. On est parti comme ça. Juste avec ce qu'on avait.
Il a fui l'avancée des factions pro-turques et comme 6 autres familles, il vit à présent ici avec ses enfants et sa femme dans une pièce qui ne comporte qu'un poêle à mazout, de fins matelas et des réserves de nourriture issues des distributions hebdomadaires.
Quand on est arrivé, les tribus, la population de Raqqa et l'administration avaient tout préparé.
Mais depuis, ce sont près de 9500 personnes qui ont dû être hébergées à Raqqa. Pour les accueillir, 74 écoles de la province ont été fermées. C'est une solution qui ne peut être que temporaire. Sabah Abdelaziz, responsable des affaires sociales.
On espère que la stabilité va revenir en Syrie et que ces familles rentreront. Sinon, nous devrons passer à la prochaine étape du plan, leur fournir un nouveau refuge. Créer un camp de déplacés est la seule solution qu'on aura pour eux.
Cela reste pour l'heure au stade de la discussion, mais la ville est déjà saturée et les conditions difficiles d'hébergement poussent de nombreux réfugiés à reprendre la route au nord-est syrien ou à tenter de rentrer chez eux. Marie-Charlotte Roupy, Raqqa, RFI.
Et Washington a annoncé l'extension de la trêve entre jusqu'à la fin de la semaine entre les groupes pro-turcs et les forces pro-kurdes dont le leader propose lui la création d'une zone démilitarisée à Kobané, donc au nord de la Syrie. Mayotte vient de passer une première nuit sous couvre-feu pour éviter les pillages face aux craintes de pénurie après le passage du cyclone Chido. Alors que le nombre de morts est encore difficile à déterminer, environ 120 tonnes de nourriture doivent être distribuées aujourd'hui. Le port doit rouvrir dans les prochaines heures aux porte-conteneurs, mais il faut 4 jours pour atteindre Mayotte depuis la Réunion. Et les Mahorais commencent à manquer de tout. Dans les magasins, les denrées sont rationnées. Un pack d'eau, 1 kg de sucre maximum. À la sortie du supermarché, Lisa Morisseau, correspondante de RFI à Mayotte, a rencontré Nassabia. Pour cette mère de 4 enfants et qui en attend un 5e, eh bien le manque d'eau et de nourriture commence à devenir difficile à gérer pour sa famille.
J'ai le ventre plein, mais bon, vu qu'on n'avait rien à manger à la maison, je préférais venir ici. Je suis allée acheter, mais il n'y a pas grand-chose. Les circonstances sont très difficiles. Avec les enfants à la maison, c'est pas évident en fait. On avait fait des courses. Mais vu qu'il n'y a pas d'électricité ni d'eau, tout a été décongelé. On a dû tout mettre à la poubelle. Voilà, donc on est obligé de faire les premières nécessités, hein, parce qu'on ne peut pas acheter tout ce qui est cuisse ou autre, parce que ce n'est pas possible. J'espère qu'on pensera à nous et qu'on amènera des secours le plus rapidement possible, parce que la situation est très difficile. Surtout avec les enfants, sanitaire, social, tout ça, là, c'est économiquement pas évident. C'est mort, mais bon, c'est avec.
Et pour aider les Mahorais, le gouvernement français lance un appel aux dons avec une réduction d'impôt de 75% jusqu'à 1000 euros. Le Premier ministre François Bayrou, critiqué pour avoir assisté à un conseil municipal à Pau après le passage du cyclone, indique qu'il se rendra à Mayotte dès que son gouvernement sera formé. En attendant, le président Emmanuel Macron doit arriver sur place dès demain. La situation à Mayotte, on va évidemment y revenir sur RFI dans nos journaux. Et puis au cours d'une édition spéciale, ce sera à partir de 7h10, temps universel avec Andréane Mellard et ses invités. Au Vanuatu, dans le Pacifique, les secours poursuivent les recherches pour tenter de trouver des survivants après le puissant séisme qui a frappé à l'île principale de l'archipel. Au moins 14 personnes sont mortes selon un dernier bilan. Alors que le Niger célèbre aujourd'hui le 66e anniversaire de son indépendance, le chef de la junte s'est adressé à ses concitoyens hier soir sur les médias d'État. Une prise de parole au cours de laquelle le général Abdourahman Tiani a notamment réaffirmé expliquer sa volonté de quitter la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, avec le Mali et le Burkina Faso.
Comme vous le savez, notre pays a décidé, avec nos deux autres pays frères, le Burkina Faso et le Mali, de quitter la CEDEAO. Il s'agit d'une décision irréversible, car longuement et mûrement réfléchie. Elle s'inscrit dans la démarche de reconquête de notre souveraineté pleine et entière, condition indispensable à notre sécurité et à notre développement dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Aussi, elle a le mérite d'avoir enlevé définitivement aux puissances étrangères et leurs valets africains tout moyen et toute légitimité pour nous faire la guerre à travers la CEDEAO. J'aimerais par conséquent rassurer tous les Nigériens et au-delà tous nos concitoyens de la Confédération AES que la sortie de la CEDEAO n'entraînera pas de chaos pour nos pays et leurs nationaux. Toutes les dispositions seront prises pour parer à toute éventualité.
Et ce retrait devrait être effectif le 29 janvier prochain. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe attendu en Géorgie en pleine crise politique. Les manifestants pro-européens continuent de se mobiliser depuis presque 3 semaines contre le gouvernement pro-russe et pour demander l'organisation de nouvelles élections législatives après le scrutin contesté de la fin octobre. Dans une dizaine de jours, le nouveau président Mikhaïl Kavelashvili doit aussi entrer en fonction. Mais la présidente sortante Salomé Zourabichvili refuse de quitter son poste avant donc la tenue de nouvelles élections. L'envoyé spécial de RFI à Tbilissi, Julien Chavanne, a rencontré un député du Rêve géorgien, le parti au pouvoir. Le député Levan Marashvili, à la tête de la délégation chargée de l'intégration européenne au Parlement. Voici ce qu'il pense de la situation.
Le train électoral est passé, donc tout le monde doit accepter le verdict des urnes. On a eu des élections, on a un nouveau gouvernement et récemment on a eu un nouveau président. Nous sommes dans une période de transition de 2 semaines. Le 29 décembre, ce sera le moment où nous aurons l'investiture d'un nouveau président. Si Salomé Zourabichvili décide de ne pas quitter son poste, de se lancer dans ce genre d'acte provocateur, la réponse est très simple. Les institutions de l'État feront tout ce qui est nécessaire pour assurer une transition pacifique du pouvoir. Je ne sais pas exactement ce qu'elle va faire, donc je ne peux pas spéculer sur ce qu'il va se passer. Quelle serait l'action concrète de l'institution étatique. Cela dépendra d'elle, de sa décision, de ce qu'elle va faire.
Témoignage au micro de Julien Chavanne avec Irma Inaridze. Des centaines de soldats nord-coréens tués ou blessés dans la région russe de Koursk dans des combats contre l'armée ukrainienne. C'est ce qu'indique à l'agence France Presse un haut responsable militaire américain. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit aujourd'hui participer à une réunion organisée par le chef de l'OTAN avec les dirigeants des principales puissances européennes. L'objectif est de discuter des prochaines étapes de la guerre à quelques semaines du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. dimanche. Le géant russe du nucléaire Rosatom annonce se retirer de certains sites d'extraction d'uranium au Kazakhstan. Le groupe vend ses parts à deux entreprises chinoises, ce qui montre, Altine Lazage, le rôle grandissant de Pékin en Asie centrale.
Rosatom va vendre ses parts dans trois sites d'extraction d'uranium qu'il développait avec l'entreprise étatique kazakh Kazatomprom, qui produit à lui seul la moitié des volumes du pays. La mise va être récupérée par deux sociétés chinoises. La Chine est le principal acheteur de l'uranium kazakh. L'Empire du Milieu sécurise ainsi son approvisionnement après avoir annoncé en août sa volonté de construire 11 nouveaux réacteurs. Le Kazakhstan est en effet le premier producteur mondial d'uranium avec 43% de la production globale et partage une longue frontière terrestre avec l'Empire du Milieu. Une position géographique qui facilite les exportations vers son voisin. Le départ du géant russe intervient quelques mois après les déclarations du directeur général de Kazatomprom au journal Financial Times. Meryjane Youssoupov disait début septembre que vendre l'uranium aux Occidentaux devenait difficile en raison des sanctions prises contre la Russie.
Explication d'Altine Lazage. En basket, le Paris Basketball n'est désormais plus leader de l'Euroleague après sa défaite 85-96 face au Real Madrid hier à l'Adidas Arena à Paris à l'occasion de la 16e journée. Après une série de 10 victoires de rang dans la compétition des clubs la plus élitiste du monde derrière la NBA, eh bien les Parisiens enchaînent donc une deuxième défaite. Mais cela n'enlève en rien l'engouement que le club suscite. Reportage de Babacar Diarra.
Dans les couloirs de l'Adidas Arena, une troupe de 200 supporters inconditionnels du Paris Basketball tente d'embarquer tout le monde dès l'avant-match.
Quand on parlait de l'Euroleague, la première chose qu'on s'est dit, c'est on va recevoir le Real Madrid à la maison.
Le COP parisien de Julien s'est déjà fait une solide réputation en France et en suivant les traces de son équipe, il tente d'exister avec les fans les plus passionnés d'Europe.
Depuis le début de la saison, on a eu la chance de pouvoir embarquer tout le monde avec nous parce que le scénario faisait que les spectateurs étaient dans leur match et forcément, avec nous qui poussons, ils voient que les joueurs ont besoin de ça et en redemandent.
Cette fois, les chants n'ont pas suffi face au Real Madrid, club le plus sacré en Euroleague. Une deuxième défaite de rang dans la compétition, mais un spectacle qui a comblé Saïd.
Pour une première impressionnante, le stade était vraiment grand, contrairement à un stade normal. Donc, bonne expérience.
Pleine pendant les JO pour les épreuves de gymnastique, la salle devient le cœur du basket parisien, voire français. L'ailier Banjassi savoure.
C'est incroyable d'avoir une salle pleine comme ça, surtout en semaine. Sachant que voilà, on est à Paris, donc il y a pas mal de choses à faire. Et voilà, on espère voir la salle remplie comme ça à chaque match.
Dans un calendrier démentiel, le prochain rendez-vous à domicile de cette épopée parisienne, c'est pour ce jeudi, face aux Turcs de Fenerbahçe.
À noter que le Paris Basketball a cédé son fauteuil de leader de l'Euroleague à un autre club du championnat français, l'AS Monaco, vainqueur hier du Bayern Munich 93-74. Et puis en football, à défaut d'avoir remporté le Ballon d'Or, le Brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior, a été désigné meilleur joueur FIFA de l'année. Chez les femmes, le titre a été décerné pour la seconde fois à la Barcelonaise Aitana Bonmati. Voilà pour le journal.
RFI, toute l'actualité.
Clotilde Dumais.
Il est 5h13, à Paris on reste ensemble encore pour une vingtaine de minutes. À l'occasion de la journée internationale des migrants, on va largement évoquer leurs conditions. D'abord en Angleterre, pays qui fait toujours rêver de nombreux exilés, et ce malgré les traversées mortelles de la Manche. Et puis on ira en Égypte où plus d'un million de Soudanais se sont réfugiés pour fuir la guerre. Et ils s'organisent comme ils peuvent pour assurer un enseignement aux enfants qui n'ont pas accès à l'école publique. Reportage en périphérie du Caire à écouter dans quelques minutes. À suivre également le réalisateur franco-marocain Nabil Ayouch qui présente son dernier film Everybody Loves Touda dans les salles de cinéma à partir d'aujourd'hui en France. Et puis on verra avec Caroline Paré pourquoi les femmes sont deux fois plus touchées par la dépression que les hommes. Ce mercredi 18 décembre, c'est donc la journée internationale des migrants et ils sont nombreux à tenter notamment la traversée de la Manche entre les côtes françaises et anglaises. 2024 est même l'année la plus meurtrière. Plus de 70 personnes ont perdu la vie en tentant de rejoindre l'Angleterre. Le gouvernement britannique a annoncé début novembre l'équivalent de près de 80 millions d'euros pour s'attaquer au système des passeurs. Mais en attendant, l'Angleterre reste attractive pour ceux qui fuient la guerre ou les persécutions dans leur pays d'origine. Alors pour quelles raisons ? Eh bien, c'est le reportage de Marie Billon.
C'est au pied de la tour de l'horloge, comme il appelle Big Ben, que nous rencontrons Salman. Salman a 20 ans, il est afghan, il est demandeur d'asile. L'un de ceux qui a risqué sa vie en traversant la Manche pour arriver sur le sol britannique.
J'étais dans un bateau de 9,5 mètres de long avec 60 autres personnes. C'était tellement dangereux. J'ai regardé la mort dans les yeux. C'était très dur. Entassés sur le bateau, nous avions du mal à respirer. Tout le monde avait peur que le bateau coule.
Salman a dû laisser sa famille en Afghanistan pour entamer un périple de plusieurs mois. Actuellement, Salman est logé dans un hôtel au sud de la capitale, à Croydon. Il ouvre son ordinateur portable pour nous montrer qu'il étudie l'anglais. Il a aussi des cahiers où il s'entraîne à tracer les lettres de l'alphabet et à côté de tout ça, il prépare son dossier et l'entretien qu'il espère avoir bientôt pour sa demande d'asile. Plus de 30 000 personnes ont traversé la Manche pour demander l'asile en Angleterre en 2024, l'année la plus meurtrière avec au moins 58 décès enregistrés.
Yeah, so I'm Ravi Shan Rahel Mathia, I'm the communications director at the Joint Council for the Welfare of Immigrants.
Ravi Shan Rahel Mathia travaille pour une organisation appelée le Conseil pour le bien-être des immigrants. Entre autres, il aide les demandeurs d'asile à comprendre le système britannique. Il a croisé des centaines de réfugiés et d'où qu'ils viennent, dit-il, ils ont tous un point commun.
Toute personne qui arrive dans ce pays, en particulier avec l'itinéraire dangereux que beaucoup empruntent, pense qu'il n'y a pas d'autre choix que de venir ici. Ils ont une communauté ici, des liens linguistiques, ils parlent anglais. Peut-être à cause de l'Empire britannique, ils ont d'autres liens, des liens culturels, ils entendent parler du Royaume-Uni depuis longtemps dans leur famille.
Certaines autorités européennes, françaises en particulier, estiment aussi que le Royaume-Uni est plus ouvert pour ceux et celles qui voudraient travailler illégalement. Selon les derniers chiffres disponibles, ceux de juin 2024 pour les 12 mois précédents, il y avait 75 658 demandes d'asile concernant plus de 97 000 personnes au Royaume-Uni. Plus de 70% des dossiers sont acceptés. Les demandeurs d'asile doivent attendre plusieurs mois, plusieurs années parfois, avant une décision. Le gouvernement travailliste s'est engagé depuis son arrivée au pouvoir en juillet à réduire le temps d'attente tout en luttant contre le modèle économique des passeurs pour, dit-il, stopper les traversées de la Manche. Marie Billon, Londres, RFI.
Voilà, reportage à retrouver en entier dans le podcast d'Accent d'Europe sur le site internet ou l'application pure radio de RFI. En Égypte, cette fois, des dizaines de milliers d'enfants réfugiés n'ont pas accès au système éducatif public. C'est le constat dressé par l'ONG Human Rights Watch alors que l'Égypte fait face à un afflux de réfugiés massifs, parmi eux 1 200 000 Soudanais qui auraient fui la guerre depuis avril 2023. C'est le dernier chiffre communiqué par les autorités. Alors, faute de pouvoir inscrire leurs enfants dans les écoles égyptiennes, eh bien, les membres de la communauté soudanaise s'organisent pour assurer tout de même un enseignement, comme dans ce centre éducatif situé dans la périphérie du Caire où s'est rendue Alice Moreno.
Dans un immeuble d'habitation, plus de 300 enfants de tous âges sont assis au coude à coude dans des petites pièces transformées en salles de classe. Le groupe des adolescents est le plus discipliné. Les élèves songent à l'avenir.
Je veux devenir enseignante et si la stabilité revient au Soudan, j'enseignerai là-bas.
Moi, je veux être médecin pour soigner les gens, les personnes défavorisées.
Équipe enseignante et élèves, tous ici sont soudanais et redoutent le racisme à l'extérieur.
L'école égyptienne, on ne peut pas s'y adapter. Déjà, lorsqu'on marche dans la rue, on nous harcèle, on nous dit des choses moches.
Mais c'est l'administration qui demeure le frein majeur. Riam, maman d'élève, a bien le statut de demandeuse d'asile, mais pas encore de permis de résidence qui doit être délivré par les autorités égyptiennes.
Quand je suis arrivée en Égypte, je voulais faire inscrire ma fille Raja dans une école égyptienne près de chez nous. Mais le fait qu'on n'ait pas un permis de résidence valide, ça l'a privée d'être inscrite là-bas.
El Sadeg est directeur de l'établissement. Il est heureux d'offrir une éducation aux jeunes de sa communauté, mais reconnaît que ce n'est pas idéal.
C'est vrai que les classes sont étroites, c'est pour ça que c'est un centre éducatif installé dans des appartements. Ce n'est pas une école. L'école a besoin d'un grand espace.
Des ONG, ainsi que les frais de scolarité payés par les familles, financent le centre. Le gouvernement égyptien se contente de délivrer une licence qui autorise l'établissement à fonctionner. Alice Moreno, Le Caire, RFI.
Et on évoquera de nouveau cette journée internationale des migrants sur RFI tout à l'heure à 6h20 en temps universel avec l'invité d'Arnaud Pontus, Jude Jassouma, co-auteur de ce livre « Je viens d'Alep, itinéraire d'un réfugié ordinaire ». Il partagera son point de vue sur la situation en Syrie. Peut-elle chanter la liberté et vivre comme elle l'entend dans le Maroc actuel? C'est la question posée par ce film Everybody Loves Touda qui sort au cinéma aujourd'hui en France. Le réalisateur franco-marocain Nabil Ayouch dresse là le portrait d'une Chira. Explication et rencontre avec Sophie Torlotin.
Bonjour Nabil Ayouch.
Bonjour Sophie.
Après Whatever Lola Wants ou Much Loved, vous signez un nouveau beau portrait de femme forte et rebelle, adulée et méprisée avec Everybody Loves Touda. C'est un portrait de Chira. Alors, c'est quoi une Chira au Maroc?
Les Chira, c'est des poétesses qui nous viennent des temps anciens, début du 20e, fin du 19e siècle, à une époque où il était interdit aux femmes de chanter en public. Elles ont porté une haïta, qui est une poésie chantée qui avait déjà à l'époque plusieurs siècles. Et elles y ont ajouté des choses aussi importantes que leur vision de l'amour, du désir, du plaisir, des choses hautement subversives pour l'époque. Et ces femmes ont joué un rôle fondamental dans l'histoire du Maroc. Ça a été de véritables héroïnes qu'on a adulées à une époque. Et ensuite, l'exode rural aidant, quand elles sont montées dans les grandes villes, leur image s'est malheureusement petit à petit transformée auprès de l'opinion publique, on va dire.
Alors, votre Touda, Nabil Ayouch, elle vit à notre époque. Hein. Elle veut exercer son art, elle veut vivre librement ses amours, mais pour cela, elle est méprisée, elle est considérée comme une prostituée. Est-ce que c'est une façon, avec ce film et ce beau portrait de presque de guerrière, de dénoncer l'hypocrisie de la société?
Oui, c'est une façon de dénoncer une espèce d'hypocrisie ou de schizophrénie qui consiste à adorer et détester ces femmes en même temps, parce que dès qu'elles ouvrent la bouche, elles sont partout dans la société marocaine, tout le monde aime les entendre, parfois même rentre en transe, même les plus conservateurs ou les plus conservatrices. Enfin, il y a une espèce d'appel du large très fort, très beau, parce qu'elles font partie de l'ADN marocain. Et en même temps, quand on veut insulter aujourd'hui une femme, on peut la traiter de Chira allègrement, et je trouve qu'il y a une forme d'injustice terrible. J'ai voulu leur restaurer un honneur, une dignité, et rappeler justement ce rôle très important qu'elles ont joué, et surtout dire à quel point ces femmes doivent être vues pour ce qu'elles sont avant tout, des artistes.
Vous le disiez, Nabil Ayouch, il y a peut-être moins de Chirat de nos jours. Est-ce que votre film, qui va représenter le Maroc dans la course à l'Oscar du meilleur film étranger, votre film qui a été sélectionné au Festival de Cannes, voilà, ça braque les projecteurs et peut-être va changer l'image des Chirat au Maroc?
J'espère. On a fait le tour du monde avec, depuis le Festival de Cannes où il a été présenté la première fois. On est allé en Europe, on est allé aux États-Unis, on a montré le film à des publics très différents, qui chaque fois ont été très sensibles à la cause de ces femmes, ont aimé ce qu'elles défendaient, et puis aussi, d'une certaine manière, et ça c'était plus surprenant, ont vu l'universalisme en fait qu'il y a dans les propos de ces haïtas, de ces très belles traditions que ces femmes portent dans le film, et nous ont dit à quel point les combats de ces chirat, il y a plus d'un siècle, étaient et rejoignaient parfois des combats que elles menaient encore aujourd'hui en Occident, là où on croyait certains droits acquis, des droits aussi fondamentaux que celui à l'avortement par exemple, et qui étaient remis en cause de plus en plus un peu partout dans le monde, elles se sont reconnues dans les combats de ces chirat.
Merci beaucoup Nabil Ayouch.
Voilà, Nabil Ayouch interrogée par Sophie Torlotin pour Everybody Loves Touda dans les salles de cinéma donc à partir d'aujourd'hui en France.
Le Conseil Santé avec Sounou Assurance.
Les femmes sont davantage concernées par la dépression que les hommes. Alors, pour quelles raisons? Eh bien, c'est la question posée par Caroline Paré à son invité.
Docteur Lucie Joly, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes praticienne hospitalière en psychiatrie périnatale au service de psychiatrie de l'hôpital Saint-Antoine et de l'hôpital Trousseau à PHP à Paris. Les femmes, deux fois plus touchées que les hommes par la dépression. Est-ce que seuls les facteurs biologiques peuvent l'expliquer?
Alors non, la biologie n'explique pas tout et la prévalence de la dépression au féminin s'explique aussi par une combinaison de facteurs psychosociaux et notamment toutes les inégalités dans le travail, dans l'organisation familiale et toutes les violences dont sont victimes les femmes jouent énormément.
Sur le plan physiologique, on peut pointer quelles explications ?
Alors la mécanique hormonale de la femme est une clé pour bien comprendre la phénoménologie de la dépression. Et on le voit, les femmes sont beaucoup plus déprimées dans des périodes de grands remaniements hormonaux, comme par exemple la grossesse ou encore la ménopause, ou le trouble dysphorique prémenstruel dont on parle peu mais qui touche quand même 5% des femmes.
Est-ce que vous diriez qu'il y a aussi par rapport à la dépression des préjugés typiquement féminins ?
Alors oui, bien souvent, on minimise les symptômes dépressifs, on les met sur le compte de la grossesse ou de la ménopause. Et les femmes donc s'autorisent très peu à verbaliser leurs difficultés dans ces périodes et c'est bien, bien compliqué.
Merci docteur Joly. Vous avez co-signé avec le docteur Hugo Botman le livre « La dépression au féminin » aux éditions du Rocher. Aujourd'hui dans Priorité Santé, comment résister à l'anxiété quand le climat et l'actualité internationale inquiètent, crise climatique, politique, conflit inextricable entre fatigue informationnelle et éco-anxiété, comment prévenir et surmonter les angoisses du quotidien. On se retrouve à 9h10, 1h10, temps universel, et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Merci beaucoup Caroline Paré. Pour le moment, il est presque 5h30 à Paris. Et on va mettre un peu de joie jusqu'à présent. Joy, le titre d'Angélique Kidjo et Davido. C'est le choix des programmateurs de RFI.
I found the joy through all the pain I found the sun, through all the rain I found the power, every new day I found the power, every new day, and I'm awakening, I could be through the thick and thin, I'm singing my song and I'm finding my way. It was lost. I held my heart out of the dark, out of the dark.
I found the power, a brand new day, a brand new day. I found the power, a brand new day, a brand new day.
There is a love I only know, I only know. I find the strength to let her go, to let her go. I found the power, as you can see, there's no belief. Girl, you can forward, come there with me.
Joy, le titre d'Angélique Kidjo et de Davido dans la playlist de RFI. Restez avec nous dans un instant, l'actualité africaine.
De voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
décrochage scolaire, les métiers verts peuvent-ils redonner confiance aux jeunes ?
Demain,
aux États-Unis, une enquête sur la vraie vie des femmes amérindiennes, victimes de l'oubli et du silence.
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
Vous portez un projet numérique favorisant l'accès universel à l'eau et à l'assainissement, la conservation et l'exploitation durable des mers et océans en Afrique francophone?
Participez à la 9e édition du concours Challenge APAfrique avec RFI et France 24 et bénéficiez d'une dotation financière pour le développement de votre projet.
Candidatez dès aujourd'hui et jusqu'au 26 janvier 2025 sur appafrique.rfi.fr.